conditions actuelles, 23 degrés.
Une radio pas pire, progressive.
C'est Félix, 95.5 FM.
Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Le Québec compte de très nombreux lacs, des zones de villégiature, de loisirs et aussi de mobilisation pour de nombreux citoyens. Les activités humaines, l'urbanisation en tête, agissent sur nos lacs. Les changements climatiques apportent aussi des changements de la hausse de température au ruissellement des polluants liés aux incendies. Un comité de sauvegarde du lac Cristal.
Les vieilles chansons, les vieilles chansons, qui tournent en rond. Les vieilles chansons, qui tournent en rond.
Ah, ces vieilles chansons qui tournent et qui tournent en rond. Mais ça veut pas dire qu'on fait du surplace à l'émission de chansons et de réflexions. Vous aurez certes reconnu cette introduction qui n'avait pas été acceptée par la machine, là, d'où la coupure, là, désolé, chers auditrices et auditeurs de la plus belle et de la plus grande radio musicale et communautaire en Estrie, radio parlée, radio musicale, radio toutes sortes de choses. Au micro, vous aurez peut-être reconnu votre humble animateur préféré un mercredi sur deux entre midi et 13h. Évidemment, l'échantillon n'est pas très grand, mais quand même, Étienne-Alexis Boucher, directeur général de la Société nationale de l'Estrie de droit collectif Québec, deux organismes à but non lucratif qui unissent leurs forces afin de produire pour vous cette émission qu'on pourrait qualifier d'affaires publiques, alors que on a le bonheur de discourir avec des invités de marque à propos d'enjeux qui ont leur part d'actualité. Et vous savez, lorsqu'on a une mission aussi vaste que celle de promouvoir et de défendre la culture, l'histoire nationale du Québec, sa langue belle, voire de contribuer au développement global de la nation québécoise, tout en défendant les droits collectifs des citoyens et des citoyennes qui occupent le territoire, ben, à un moment donné, il faut l'incarner. Et pour nous, la production de cette émission radiophonique, on pense que ça nous aide à alimenter votre réflexion citoyenne sur des enjeux qui, s'ils ne vous intéressent pas, le devrait. Hein, vous savez, lorsque j'étais en politique active, bon, je suis revenu un peu, mais la politique municipale n'a rien à voir avec la politique que l'on peut vivre à Québec ou à Ottawa comme député. Souvent, les gens me disaient « Ouais, mais là, toi, tu te connais en politique, là, tu sais. » Je veux juste vous dire que, évidemment, s'y connaître en politique, c'est pas nécessairement connaître le nom de son premier ministre ou de sa première ministre, là. C'est pas ce dont on parle. De s'intéresser à la politique, c'est de s'intéresser aux enjeux qui préoccupent, auxquels fait face, finalement, la population québécoise de manière générale. Et souvent, ce que je disais aux gens qui me disaient que, bon, pour eux, la politique, de toute façon, vous êtes toutes pareilles, vous, les politiciens, les politiciennes, puis ça change rien, mon vote change rien. Juste vous dire, là, vous avez le droit de ne pas vous préoccuper, de ne pas vous intéresser à la politique. Mais je peux vous dire une chose, c'est que la politique, elle s'intéresse à vous. Elle va vous organiser. Alors, vous pouvez l'ignorer, mais sachez que, de toute façon, vous allez être pogné avec elle. Alors, autant faire contre mauvaise fortune, bon cœur, et s'intéresser aux enjeux qui touchent le développement de la société estrienne, par exemple, voire de la société québécoise dans son ensemble. Alors, aujourd'hui, en cette magnifique journée du 17 juin 2026. On a le bonheur de recevoir une émission, une personne que je voulais recevoir il y a déjà quelques mois dans le cadre de l'émission qui devait porter sur la Journée nationale des langues autochtones qui se tient annuellement le 31 mars. Maintenant, pour des raisons, je dirais, techniques, on n'avait pas été en mesure de recevoir à l'émission M. Daniel Nolette, qui est directeur général du conseil de bande d'Odanak, qui est une des deux principales communautés formant la nation Wabanaki, qui est la nation réputée gardienne ancestrale des terres qui sont aujourd'hui nommées Estrie. Et donc, on est très heureux de discuter avec M. Nolette des différents enjeux touchant les nations autochtones. Pourquoi? Ben parce que depuis un certain temps, dans le fond, le 21 juin est à chaque année célébré comme Journée nationale des peuples autochtones. Alors, ben 17 juin, 21 juin, on trouvait ce concept d'organiser ou plutôt de reprendre la discussion qui nous avait été échappée échappé à la fin du mois de mars dernier. Alors, pour votre information, la Journée nationale des peuples autochtones a lieu le jour du solstice d'été, qui, soit dit en passant, est le jour le plus long de l'année. On le célèbre, mais on sait aussi qu'à partir du 21 juin, ben motadine, les journées recommencent déjà à raccourcir. Mais bon, on en a quand même pour encore quelques semaines, voire une couple de mois, à pouvoir profiter de nos soirées avec le soleil. Malgré tout, il fera pas noir à 4h30 à partir de demain matin, à partir du 22 juin, je vous en passe un papier. Et en fait, à l'occasion du solstice d'été, et cela depuis de nombreuses générations, bien, plusieurs communautés issues des Premières Nations, des Inuits et des Métis présentes sur le territoire québécois, elles célèbrent leur culture, leur langue, leur tradition. En effet, depuis des temps immémoriaux, le solstice d'été a une signification culturelle et spirituelle profonde pour de nombreuses nations, marquant une période de renouveau, de connexion et de célébration. En 2026, on va célébrer la 30e édition de cette journée commémorative, alors que celle-ci avait été officiellement instituée en 1996 par le gouverneur général Roméo Leblanc, qui a désigné le 21 juin comme Journée nationale des Autochtones dans la foulée d'une recommandation commune de l'Assemblée spirituelle et de la Commission royale sur les peuples autochtones. Alors voilà pour la mise en bouche d'une émission qui, je l'espère, vous divertira. Et afin d'avoir le bonheur de parler directement à M. Nolette, on va vous soigner une petite chansonnette, évidemment, écrite par une artiste autochtone, Mme Élise Sapie. Et le titre de la dite chanson est « Ton vieux rêve », je pense. Hein? « Ton vieux nom ». Alors voilà. Bonne écoute et on se voit tout de suite de l'autre côté de cette pause musicale.
J'ai rêvé cette nuit que tu dansais au milieu d'une terre brûlée, comme si les pas t'appartenaient, comme si tu les avais inventés. Tu es né fort avec les joues rondes, des mains qui n'ont pas peur du froid, des yeux qui tremblent sur le monde, mais des mots qui ne viennent pas. Dis-moi comment tu plantais la neige, comment nous sommes faits de pierre. Je veux t'écrire une chanson pour te rappeler ton nom. Ton vieux nom. les chiennes entrent, plus à la tombée du jour. Et dehors les lunes hurlent à la mer. Les oiseaux quittent tour à tour. Toi, tu dessines des tempêtes. Tu restes là, cloué au sol. La blessure au bord de l'air. Et si ton cri lançait la révolte, mes jambes tremblent quand tu te soulèves. Sur la baie, j'ai brisé les lois, un seul incendie. On n'est pas venu au monde se consacrer à la misère. Les maisons qui logeaient nos vices, je les ai démolies. Faut bien donner.
Giorne venera, aula itaco, ulumenta poi artilogo, mette in pesa la prossima gama, cinetto ma venga nel mio palotta, andata con un'ara con l'unica la gama, cinetti, ulla sopra la prossima gama.
Alors, c'était Élie Sapie et sa chanson « Ton vieux nom ». Alors, je le rappelais, on a le bonheur de recevoir à cette émission du 17 juin 2026, M. Daniel G. Nolette, qui est directeur général du Conseil des Wabanaki d'Odanak depuis août 2005. Ça fait maintenant 21 ans. Il aura été auparavant directeur général du Grand Conseil de la Nation Wabanaki de 1995 à 2005. Il cumule donc un total de 32 ans d'expérience dans la gestion et l'administration des programmes destinés aux Premières Nations, faisant de lui un invité de marque pour qu'on puisse discuter, évidemment, de cette Journée nationale des peuples autochtones. Vous aurez certainement remarqué, chers auditeurs, auditrices, que le mot « peuple » est apparu dans la foulée du premier nom, qui était simplement la Journée nationale des Autochtones. Là, on a rajouté le terme « peuple » pour, j'imagine, lancer un message. Là, on parle de véritables nations, à l'instar de la nation canadienne et québécoise. Alors évidemment, Monsieur Nolette, permettez-moi au nom de toute l'équipe de la Société nationale de l'Estrie, de droit collectif Québec et de la radio communautaire CFLX de vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre invitation. Nous qui avions envie de souligner dûment, comme il le mérite, la Journée nationale des peuples autochtones. Puis bon, afin de dresser la table là, à cette belle entrevue, si vous le permettez, j'aimerais quand même qu'on mette le décor en place. Alors, pour commencer, puis au bénéfice de nos auditeurs et auditrices, bien d'abord, je veux vous saluer. Bonjour, M. Nolette.
Bonjour, ça va bien.
Ben oui, merci. J'ai pas toujours ce réflexe-là, là, mais vous faites bien là, de me relancer, c'est apprécié, Monsieur Nolette. Est-ce que vous accepteriez, là, juste question de mettre la table, là, est-ce que vous accepteriez de nous présenter l'organisation que vous dirigez, soit le conseil de bande d'Odanak, depuis quand ça existe, comment s'articule sa collaboration avec la communauté Wabanaki de Wolinak, de même que le grand conseil de la nation Wabanaki que vous avez, dont vous avez été aussi le directeur général. Bref, en quelques minutes, là, M. Nolet, on veut tout savoir à propos de votre organisation.
Parfait. Ben, en fait, au Québec, faut savoir que chaque Première Nation a un conseil d'élus, un conseil de bande, un conseil de membres élus. En fait, le conseil des Abénaki d'Odanak, le conseil de bande, existe depuis la création de la loi sur les Indiens, là, la première version de 1876. Auparavant, les communautés étaient gouvernées par un conseil qui, avec leur mode électoral coutumier d'existence, fait, qui existait auparavant avant la loi sur les Indiens. Fait que dans le fond, de dire depuis combien de temps que le conseil existe, sous sa forme selon la loi sur les Indiens depuis 1876, mais le conseil, il y a eu des conseils à Odanak depuis bien avant ça, depuis en fait que la nation existe. On a de la misère à reculer dans le temps pour déterminer une date exacte. Mais on célèbre à Odanak la présence des Abénaki et des Sokoki depuis au moins 1660. Depuis les recherches archéologiques démontrent qu'on était ici au moins depuis 4000 ans.
Autrement juste un petit clin d'œil, M. Nolet, là, je comprends qu'on va, cette année, on célèbre le triste anniversaire d'une loi, là, disons, contestable. On va en parler un peu plus loin, là, le 150e, parce que 1876, 2026, là, ça me semble que ça fait pas mal 150 ans. Et on comprend, M. Nolet, que, dans le fond, vous n'avez pas attendu l'arrivée des Allochtones pour vous donner vos propres structures de gouvernance, là, au sein des nations autochtones.
Non, traditionnellement, chez nous, chez la nation Abénaki, c'est les femmes qui nommaient les chefs, qui étaient souvent les plus éloquents, la personne la plus éloquente et qui était le mieux prêt à représenter la communauté, la tribu, si on veut. Mais il y avait point que le chef, il y avait des chefs de guerre, il y avait des chefs... Il y avait différents titres là, qui existaient, là, mais les chefs chez nous étaient nommés originalement par les femmes. Mais oui, effectivement, depuis bien avant l'arrivée là, des lois coloniales, il y avait des systèmes politiques qui existaient déjà dans nos nations.
Et dans le système à l'heure actuelle, juste comme pour... puis là, je sais que les comparaisons sont toujours un peu boiteuses, mais pour le bénéfice de nos auditeurs et de nos auditrices, est-ce qu'on comprend que le conseil de bande de la nation Wabanaki agit un peu comme un conseil municipal plus-plus, là?
Ben, en fait, oui, plus-plus, parce qu'on est en soi un gouvernement. Si vous venez à Odanak, vous allez voir sur la devanture du bureau administratif gouvernement des Abénaki d'Odanak, ben c'est carrément ça. Auparavant, les programmes pour lesquels aujourd'hui on administre pour le bénéfice de nos membres, c'était géré par le gouvernement du Canada, par les fonctionnaires fédéraux qui livraient les programmes et les services pour le bénéfice des Premières Nations au Canada. Mais depuis les années 1980, je dirais début des années 80, avec le 1 chez nous, je parlerai pas pour les autres nations, mais je parlerai particulièrement chez nous au Odanak. Le premier programme qui a été pris en charge, c'est l'éducation, programme d'éducation, dans les années 81, 2, 3 à peu près. C'était le premier programme pris en charge chez nous, et par la suite, il y a eu différents programmes au fil des années qui ont été pris en charge. On parle ensuite de l'habitation, on parle des programmes de santé, services sociaux, l'aide aux revenus ou le bien-être social dans le temps, et ainsi de suite. Le plus gros de la prise en charge des programmes s'est terminé vers le milieu des années 90. Fait qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est un gouvernement, parce qu'un conseil de bande à Odanak, comme par exemple, en plus de gérer, comme je disais, on gère l'éducation, on a un programme, on gère l'habitation. On gère, on a un centre de santé, un centre de prévention en santé et services sociaux. Donc, on gère nos programmes de santé. On a des soins infirmiers, des soins en psychologie, des soins en nutrition. On a un travailleur en réadaptation pour les gens qui ont des problèmes de dépendance, On a des services maintenant en ergothérapie, etc., etc. Donc, on a une gamme de services qui sont dispensés à nos membres via le centre de santé. On gère aussi nos propres terres. On a aussi la gestion de notre corps de police. Odanak gère pour le bénéfice de la communauté d'Odanak et de Wolinak le corps de police des Abénaki. Le poste de police est situé à Odanak. On a un poste satellite à Wolinak. On dessert Odanak et Wolinak avec le corps de police des Abénaki. On gère aussi, bien sûr, comme d'autres localités, municipalités, bon, les travaux publics, là, tout ce qui est les services de déneigement, entretien des aires publiques, des infrastructures communautaires. On a notre propre système de traitement des eaux usées à Odanak. Donc, on a les travaux publics, on a une gamme de services. Et on a un département aussi depuis une quinzaine d'années, le Bureau environnemental qui gère tous les programmes et les initiatives là, pour l'aménagement d'habitats fauniques et la gestion de certaines espèces qui sont sur la liste des espèces en péril ou menacées. Donc, on a une équipe au Bureau environnemental qui gère ces programmes-là et qui font des initiatives sur leur territoire pour la réhabilitation des habitats de certaines espèces vulnérables qui sont chères pour la nation, et ainsi de suite. Donc, ouais. On est aujourd'hui 103 employés au conseil des Abénaki d'Odanak pour une population résidente de 570 environ, mais une population, un membership total de 3908 personnes en date là, du mois de mai là, dernier, là, qu'on a fait le dernier recensement.
Donc, ma comparaison était plus que boiteuse, elle était même carrément erronée, alors qu'au fond, oui, vous assumez les responsabilités normalement assumées par les municipalités québécoises, ouais, mais aussi plusieurs responsabilités assumées par le gouvernement du Québec. Puis lorsque vous parlez d'espèces en péril, il y a aussi là, je pense, des responsabilités du gouvernement fédéral. Puis pour ce qui est du nombre là, de personnes, d'employés versus votre population, ben, roughly, là, me semble que ça correspond à ça, là, au Québec, là, si on regarde le nombre de fonctionnaires employés par l'État québécois / fédéral et la population, là, pour moi, on est pas mal dans les mêmes eaux. C'est vraiment intéressant. Une deuxième question, de mise en place du décor, M. Nolet. Maintenant que les auditeurs et les auditrices ont une meilleure idée de l'importance de votre organisme, est-ce que vous accepteriez de nous en dire davantage sur cette fameuse journée du 21 juin? T'sais, est-ce que ce type de journée, selon vous, est utile, pertinente? Est-ce que cette journée en particulier a vraiment permis de sensibiliser les acteurs et les actrices concernés envers les enjeux ou les défis que rencontrent les nations autochtones et, bon, dans votre cas, principalement la nation Wabanaki? Ou encore, on a un peu l'impression que, bon, on crée ce type de journée-là juste pour, comme ça pourrait être une façon de se convaincre qu'on est vertueux puis que, oui, on s'en occupe, mais que dans les faits, les impacts sont plutôt limités, voire complètement absents.
Non, en fait, depuis l'instauration de la Journée nationale des premiers peuples, maintenant, des Autochtones, c'était l'occasion de pouvoir partager avec la population non autochtone, justement, la richesse de notre culture, de nos savoirs et de nos traditions. Donc, ça l'a permis, justement, le 21 juin, proche de la fête nationale des Québécois, de pouvoir, dans un même horizon, là, dans un même temps, rapprocher le partage des cultures mutuelles, tu sais, de nos peuples. Fait que, tu sais, ça a ouvert la porte, justement, à des festivals, comme en fait, la semaine dernière, il y a le Festival Coué, depuis quelques années, qui existe, qui est à Québec, permet à des artistes et des artisans des Premières Nations de montrer leur savoir-faire et la culture et l'histoire générale des premiers peuples au peuple québécois, puis aux visiteurs qui viennent dans la ville de Québec. Puis le 21 juin, il va y avoir d'autres activités dans le cadre de l'événement Coué, qui va aussi permettre davantage, ça va être un spectacle à grand déploiement avec des artistes qui sont de plus en plus connus au niveau de la scène régionale là, des membres des Premières Nations du Québec. Fait que c'est vraiment une belle vitrine pour ça, pour vraiment démontrer et rapprocher, si on veut, nos peuples, pour profiter du moment aussi pour continuer à faire l'éducation, de la sensibilisation, vraiment, pour, encore une fois, favoriser les rapprochements avec tout ce qui a été en fait vécu dans l'histoire là, avec on fera pas tout le retour sur qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait c'est une belle opportunité qui nous est offerte de vraiment souligner nos différences et vraiment de se rapprocher puis de rapprocher les ponts, parce que dans le fond avec le temps, avec l'histoire, avec les ponts se sont brisés. Il y a eu des événements fâcheux, il y a eu des choses qui se sont encore passées récemment, dans les dernières années. Mais avec la Journée nationale des Autochtones et les autres Journées Vérité et Réconciliation en septembre, mais c'est des choses qui permettent de justement penser les blessures et de passer à autre chose et de vraiment apprendre à mieux se connaître. Puis les gens ont vraiment découvert que tu sais la réalité des Premières Nations c'est quoi, puis comprendre où tu sais pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi il y a eu cette journée là, pourquoi il y a la journée Vérité et Réconciliation en septembre, mais parce qu'il y a eu un passé, puis les gens n'étaient pas trop au courant de comment ça en est venu là, mais avec l'éducation, avec la sensibilisation que ça a permis de faire, ben on se comprend mieux, on se connaît mieux aujourd'hui. Là.
Je vais faire du pouce sur votre réponse et plus détaillée, M. Nolette. Là, vous avez parlé déjà là, de festivités qui ont été organisées là, lors de la semaine dernière à Québec. Dans le cadre de la journée qui s'en vient, là, dans les prochains jours, est-ce que vous, à Odanak, vous prévoyez souligner cette journée d'une quelconque façon? Et si oui, comment? Est-ce que bien sûr, j'imagine que l'ensemble de la nation Wabanaki sera appelée à y contribuer, mais est-ce que toute la population y est convié justement pour mieux se connaître. Puis quand on se connaît mieux, souvent, il y a des préjugés ou des peurs irrationnelles qui finissent par tomber tranquillement.
En fait, pour la journée du 21, il y a nos artistes et artisans qui ont participé et qui participent à l'événement Koué. Mais pour ce qui est de localement, on profite de l'occasion pour justement, depuis plusieurs années, on va sur le territoire de la communauté, là, sur l'île Ronde, et on va avoir un campement où on va tenir un week-end culturel. Dans le fond, c'est réservé aux membres de la communauté. Ça aurait pu être l'opportunité pour échanger avec nos frères, nos voisins, mais on en profite, ça arrive une fois par année, on en profite justement pour aller faire un genre de ressourcement, un week-end culturel sur l'île Ronde, et on fait un campement avec différentes activités. On va faire de la pêche, on va faire, bien sûr, on va festoyer, on va avoir de la nourriture traditionnelle et on va en profiter pour échanger. Mais vraiment, on célèbre depuis quelques années, là, vraiment ça, dans l'intimité chez nous, là.
Bon, ben c'est vraiment intéressant et ça a l'air fou comme ça, mais le temps passe toujours trop vite lorsqu'on discute avec quelqu'un d'intéressant sur des enjeux intéressants. On en est déjà, M. Nolette, à la moitié de l'heure. Alors, si vous le voulez bien, là, on va prendre une courte pause commerciale d'à peine 90 secondes, là, vous permettant, de même qu'à nos auditeurs et auditrices, d'aller chercher un verre d'eau en cette chaude journée. Mais revenez rapidement à l'écoute de Saint-Félix, puisque dans à peine quelques dizaines de secondes, on sera dans le fond la deuxième partie de cette émission concernée à la Journée nationale des peuples autochtones en compagnie de M. Daniel G. Nolette, directeur général du Conseil de bande de la Nation Wabanaki à Odanak.
Il est midi
28 minutes.
La cinquième édition de l'Afro-Festival de Black History arrive à grands pas. Les 4 et 5 juillet 2026, rendez-vous au Parc Blanchard pour une célébration vibrante des cultures afro-descendantes. Une fin de semaine entièrement gratuite vous attend avec une programmation colorée. Exposants, prestations artistiques, traiteurs aux saveurs d'ici et d'ailleurs, maquillage pour enfants et bien plus encore. Venez découvrir, célébrer et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis. Un événement organisé par Black History avec le soutien de la ville de Sherbrooke.
Aburo. Ici Daniel Poulain qui vous invite tous les lundis entre midi et 14h à me suivre au lundi de Daniel. Musique, actualités, faits divers et entrevues. Donc un rendez-vous à ne pas manquer de midi à 14h pour un petit lundi avec Daniel. Au pire, prends tout.
Amateurs de rock et des styles musicaux qui s'y rattachent, ne manquez pas le Rock et ses racines. Le mercredi de 16h à 18h et en reprise le jeudi de 22h à minuit, c'est le Rock et ses racines. Animé par Patrice Desmarais, c'est pas pire pantoute, sur les ondes de CFLX, la vraie radio rock en Estrie.
Pas pire audacieuse, c'est Félix 95.5 FM.
Alors, vous êtes déjà de retour. Ben, en fait, l'émission de chansons et des réflexions est déjà de retour en ondes après cette courte pause commerciale, hein, parce que même si on est une radio communautaire, reste que on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Donc, on est heureux d'avoir des commanditaires qui, évidemment, font de la publicité sur nos ondes. Daniel Nolette, directeur général du conseil de bande des Wabanaki, on a d'abord tenté de vous inviter dans le cadre de la Journée nationale des langues autochtones là, en mars dernier. Ça a pas fonctionné, mais j'aimerais quand même vous poser quelques questions là, sur... cet important sujet. Selon vous, comment on explique le grave déclin des langues autochtones survenu au cours des dernières décennies pour ensuite passer à une forme de renaissance qu'on voit là, bien là, au cours des dernières années? D'ailleurs, le Québec s'en tire pas trop mal là-dessus, là, on va en parler. Bien, je veux dire, les nations autochtones présentes sur le territoire québécois s'en tirent pas trop mal par rapport au reste du Canada. Mais, par exemple, qu'est-ce qui explique ce changement-là? Là? Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est l'inique loi sur les Indiens adoptée au 19e siècle par le Canada, une langue qui auparavant interdisait carrément aux nations autochtones de parler leur langue, qui a dressé le décor pour un tel recul, puis alors qu'elle est malheureusement toujours en vigueur aujourd'hui, ou du moins toujours en vigueur, là, autant de malheureusement, on en discutera plus tard, bien, comment les Premières Nations ont réussi à s'en extirper suffisamment pour redynamiser leur culture ancestrale par la relance de la vitalité de leur langue?
Ben oui, effectivement, la loi sur les Indiens, l'intention derrière la loi, c'était effectivement d'éradiquer l'Indien dans l'enfant, puis...
De tuer l'Indien dans l'enfant, qui disait, là, tu sais.
Ouais, c'est ça, exact. Puis c'était aussi, avec le programme des pensionnats, des écoles résidentielles, ben c'était un peu plus pour accélérer, justement, d'effacer, si on veut, la culture et l'histoire, l'identité des Premières Nations au Canada. Ça n'a pas fonctionné.
Heureusement.
Temps, non seulement ça. Non, ouais, ça. Heureusement. Puis avec l'avènement de la loi sur les langues autochtones au Canada, le gouvernement du Canada a mis en place des moyens pour justement permettre aux nations qui sont plus affectées par la perte de la langue, ben, de mettre des initiatives en place pour la revitalisation et l'enseignement et la préservation de leur langue. Fait que, On en a profité chez nous parce qu'on peut affirmer qu'on n'a plus de locuteurs. Quand on dit locuteur, c'est quelqu'un qui, à la maison, a appris de papa, de maman la langue maternelle. Donc, on a enterré la dernière locutrice en septembre 2024. Mais par contre, depuis près de 40 ans maintenant, la langue Abenaki est enseignée à nos membres. Et avec l'avènement des moyens technologiques qui sont arrivés avec la pandémie, la vidéoconférence, mais là, ça a permis d'augmenter, si on veut, l'auditoire, les élèves, les gens qui ont pu s'inscrire à nos cours de langue. Maintenant, on donne 4 cours de langue à Odanak en virtuel. Il y a 4 cours qui se donnent à différents niveaux, les nouveaux débutants, intermédiaires et avancés. Qui permet à près de 80 membres, c'est, sont Il y en a qui sont plus ou moins là, assidus, là, mais il y a 80 membres, ben, c'est comme dans tout.
Ben 80 oui,
membres
ça.
Qui suivent sur une base quand même régulière des cours de langue Abenaki. Puis on ambitionne dans quelques années de pouvoir affirmer que, sans dire que la langue va être parlée couramment, ben, on va pouvoir dialoguer et les gens vont pouvoir dialoguer dans la langue Abenaki. Et dans le dernier plan de priorité politique que le Conseil a adopté en mai 2025, ben, dans le courant de la prochaine année, on veut à Odanak adopter la loi sur la langue, la Nombandwa Wongan, c'est le nom de la langue Abenaki, pour faire en sorte qu'elle soit en prédominance dans l'affichage à Odanak, sur les bâtiments publics, sur en fait un peu partout, même sur le territoire, que la langue Abenaki soit vraiment affichée. Fait que quand vous venez à Odanak, vous allez voir sur la quasi-totalité des panneaux de signalisation, sinon sur les édifices publics, les noms dans les trois langues, l'Abenaki en premier lieu, ensuite le français et l'anglais. Donc,
vraiment?
Oui, on travaille fort.
Ah, j'en doute pas, puis franchement, je trouve ça intéressant, cette volonté-là d'adopter une langue, une loi finalement faisant de votre langue la langue officielle. Pour un ardent défenseur de la Charte de la langue française, vous pouvez être sûr que je suis d'accord avec cette démarche-là. Et puis tout d'un coup, peut-être que la Charte, vous y trouveriez des idées intéressantes, là, notamment en matière d'affichage. D'ailleurs, parlant de ça, à mon très humble avis, M. Nolette, là, je peux me tromper, je me trompe souvent, là, presque à tous les jours, là, tu sais, la nation québécoise et les nations autochtones ont beaucoup plus en commun, beaucoup plus de points en commun que de points qui les divisent. Et la protection de nos langues respectives, toute la gang sont ultra-minoritaires en Amérique du Nord, je pense en est une excellente illustration des langues qui ne pourraient survivre si elles étaient laissées à elles-mêmes, à la merci de la seule loi du marché. Or, certains, et on l'a entendu notamment dans le cadre des débats là, liés à l'adoption de la loi 96 qui venait bonifier la Charte de la langue française, bien, certaines voix s'opposent à la protection, opposent plutôt la protection du français à la protection des langues autochtones. Or, est-ce que, selon vous, on a raison d'opposer ces deux combats? D'ailleurs, est-ce que cette opposition-là n'était pas un peu surfaite, alors que je le disais, c'est au Québec et de loin que les langues autochtones sont le plus parlées au Canada? Est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu qui pourrait davantage nous unir que nous diviser?
Ben oui, parce que justement, on s'est positionné fortement contre le projet de loi 85 que vous mentionnez, parce que les langues des Premières Nations étaient oubliées. Ce qui faisait en sorte qu'on serait dans l'illégalité d'afficher dans notre langue sur notre territoire. Fait que c'est pour ça qu'on a réagi vivement avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador pour dénoncer le fait qu'on nous a ignorés dans l'élaboration de cette loi-là. Puis justement de pouvoir nous permettre d'afficher au moins sur notre territoire, tu sais, en toute légalité, d'afficher dans notre langue. Puis vous l'avez dit en entrée de jeu dans la question, mais c'est effectivement vrai. On partage les mêmes enjeux, exactement, parce que la langue d'un peuple, c'est à la base son identité propre. Fait que si on perd la langue, on perd une partie de notre identité. Fait que on a le même enjeu que le peuple québécois avec la langue française. Au Canada, c'est malheureusement le fait que justement avec la mondialisation, la globalisation et l'usage de l'anglais qui est la langue de commerce privilégiée, qui fait que il faut se battre davantage. Puis les jeunes qui poussent, ben ils sont avec l'internet, l'accès au monde par l'internet, ben souvent nos jeunes vont être enclins à utiliser beaucoup plus l'anglais que le français. Fait que, on a des vies, on partage aussi le fait que le Québec doit effectivement mettre des efforts pour la préservation de la langue française au Québec, mais en nous permettant de pouvoir garder et de pouvoir mettre en valeur nos langues aussi. Il y a moyen de cohabiter.
C'est clair que c'est pas deux combats qui s'opposent, là, du moins à mes yeux, puis je suis heureux de vous entendre le dire aussi. Si vous le voulez bien, on sera à peu près l'heure de la pause musicale. On va permettre, M. Nolette, à nos auditeurs, auditrices, de se reposer un peu des neurones qui, je suis convaincu, sont sollicités par les propos qui se tiennent aujourd'hui à l'émission. Et on ira en chanson avec un artiste autochtone, nommé Samian, qui est, à mes yeux, un peu un artiste de combat, hein, un artiste comme je les aime, ou une artiste là, très, très revendicateur, revendicatrice, alors que l'art, la chanson, sert aussi à parler politique. Hein, c'est important. Alors, nous irons chanson avec Samian et son titre et une chanson titrée « La paix des braves ».
Dans une ville appelée Kabak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack-sac pacifiquement sur l'année canard, en route au nord du Canada. Samian Okolokas, c'était temps que l'union se fasse, qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature, la barrière entre les peuples, on veut plus la casser, on en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y habitent, on était pacifiques. Et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune, on est capable de rester vrai même si on porte plus de plumes. L'union de nations freine l'ignorance, pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux.
Hashtag Costa la connaît, on débarque en rapace costanée. On a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Mama, oui, je will be by AG, Mashka, Wiziak,
Mashka, Wiziak,
Yao, Yago, Wiziak,
Yao, Yago, Wiziak,
Kikim, Bako.
De l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique. À cette époque épique, au pays du porc-épic, la maladie du scorbut, score est droit au but. Et c'est aux Premières Nations que je dois ma guérison. Raquette, cano, boucan, tisane et topagan. L'authentique autochtone enseigne à haut profane. La science de la savane, ça se soucie qu'en filigrane. La soutane mégalomane allait lui casser le crâne. Pour les Amérindiens en Amérique, il y a deux choix. Soit on les abat comme aux États, ou bien soit qu'on les réserve comme au Canada. Mes réserves ou abat, le problème demeure le même, car tombent une à une les quilles de leurs emblèmes. Ah, les visages pâles peuvent bien devenir blêmes. Désolé pour le passé, à présent qu'est-ce qu'on fait?
Allume le calume, mais qu'on fume pour la grande paix.
Hashtag Costa la connaît, on débarque en rapace costanée. On a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Hashtag Costa la connaît, on débarque en rapace costanée. On a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Mama, oui, tu will be by AG, Mashka, Wiziak,
Mashka, Wiziak,
Yao, Yago, Wiziak,
Yao, Yago, Wiziak,
et Kikim, Bako, Wiziak.
C'est en mêlant son, c'est le pacte.
Je m'excuse si je t'excise, tu meurs pas. Ou si oui, ta mort est exquise, pas de tact. On te plume pas, on te préserve dans l'alcool, on te fume dans le tabac, j'appelle ça de la taxidermie.
La quoi?
Parle-en à René Dupuis-Morancy. Chris, l'ignorance crasse me laisse un goût rancy. Vite, faut que je me rince sous les chutes, Montmorency. Oui, maman, oui, je me souviens que nous fûmes les premiers touristes dans ce pays qui paye à sa survie, à rendre ses esprits qui ont le souffle court. Et nous, les cœurs, c'est pris, trop pris, tellement pris qu'ils sont farmes à prix. Ah ah, le karma crie, Algonquin, Innu, Atikamek du Québec. Si on allumait le calumet, qu'on fumait pour la grande paix.
Hashtag Costa la connaît, on débarque en rapace costanée. On a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Hashtag Costa la connaît, on débarque en rapace costanée. On a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Mama, we will be by AG, Mashka, Wiziak,
Mashka, Wiziak,
Yao, Yao.
chanson, c'est le pacte.
Bon, ben, ceux qui n'ont pas compris le message, cette fois-là, c'était assez clair. Je pense que nos deux nations, ou les nations autochtones et la nation du Québec, qui ont été unies dans le développement du territoire au début, doivent se reconcilier. Daniel Génolette, directeur général du conseil de bande de la nation Wabanaki, qui est tout sauf, entre guillemets, juste un conseil municipal, là, qui a des responsabilités qui, normalement, relèvent du gouvernement du Québécois ou du gouvernement fédéral. Si vous le voulez bien, revenons sur cette fameuse loi sur les Indiens. On va le dire, là, dont l'Afrique du Sud s'est inspirée pour structurer un état d'apartheid. Hein. Comment pouvons-nous expliquer le fait que malgré toutes les belles promesses du gouvernement fédéral faites depuis 2015 aux peuples autochtones, puis j'imagine, M. Nolette, qu'il y a des promesses qui se font là, depuis bien plus longtemps que depuis 2015, hein, ce régime profondément discriminatoire est toujours en place au 21e siècle dans ce qui est censé être le plus meilleur pays du monde. Comment ça se peut? Est-ce que, au fond, il y a quelqu'un, une partie des gens concernés par cette loi ont intérêt à garder un tel régime en place? Est-ce que c'est parce que les solutions de rechange se sont avérées incapables de rallier suffisamment de citoyens, de citoyennes et de nations autochtones pour s'imposer, pour qu'on puisse enfin mettre fin à ce régime qui, à mes yeux, est plus que passé date?
Ben, en fait, pour répondre à la question, c'est oui, les Premières Nations veulent en grande majorité se départir s'enlever du joug de la loi sur les Indiens, mais en même temps, ça prend les moyens pour viser l'autonomie gouvernementale, pour ainsi dire, obtenir l'indépendance, si on veut, du gouvernement du Canada. Ben pour ça, ça veut dire qu'il faut s'asseoir à une table et négocier. En fait, l'accès aux ressources, c'est là où le bas blesse. C'est là où ce que les négociations souvent achoppent, c'est justement pour le fait que permettre aux Premières Nations au Canada de s'auto-gouverner, de s'auto-déterminer, ben il faut qu'il y ait en fait la signature d'un traité moderne pour la reconnaissance du territoire, l'accès aux ressources et effectivement nous permettre de pouvoir justement survivre avec les moyens qu'on va se doter dans nos lois, dans nos constitutions. Mais pour ça, ça prend une réelle volonté de vouloir régler ça. C'est ça qui est difficile parce qu'on comprend qu'il y a au-delà de 600 Premières Nations au Canada. C'est sûr que c'est un énorme travail. On peut pas dire demain matin on coupe la loi sur les Indiens et tout ça. Il faut rappeler dans l'histoire, quand il y a eu la proclamation royale en 1763, le gouvernement du Texas se sont engagés auprès des nations de dire, regarde, on va créer des aires, on va retourner chez vous, on va s'occuper de vous autres, mais on va, tu sais, en compensation pour justement les loyaux services et que vous avez donné là, dans la guerre là, France-Britannique, puis par la suite, ben avec l'occupation du territoire, ben si ça venait à quelque part par les nouveaux colons, là, les colons britanniques et français, ben c'était en quelque part une réparation pour cette loi-là, pour la perte de nos territoires, de nos terres. Là.
Autrement dit, M. Nolette, oui, la loi sur les Indiens structure notamment la gouvernance hein, des nations, oui. Des nations autochtones, identifie ce qu'est ou ce que n'est pas un ou une autochtone, mais je comprends que c'est aussi par l'entremise de cette loi qu'est structurée l'aide financière versée aux oui. nations autochtones.
Oui, en quelque sorte, ça découle de ça, de l'obligation fiduciaire du gouvernement du Canada. Et dans la Constitution, l'article 35 aussi, la reconnaissance des droits ancestraux issus de traités aux Premières Nations au Canada. Fait que dans le fond, c'est de là que découle la responsabilité des gouvernements de pourvoir aux services et aux programmes de services destinés aux Premières Nations au Canada. Mais c'est ça, pour se défaire de ça, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Il y a certaines nations qui l'ont obtenu, qui se sont soustraites de la loi sur les Indiens. Mais ça a pris des années de négociation. Hein. Ça a pris du temps. Hein.
Il y a certaines nations qui ne sont plus concernées par cette loi.
Ben oui, si on parle de la nation crée avec la convention d'Abbé James qui a été signée dans les années 70, ils ne sont plus sous la responsabilité de la loi sur les Indiens. Ils ont avec la paix des braves, ils ont leur propre système à eux. Là.
Ah, c'est intéressant ça, parce que la paix dont vous faites référence, M. Nolet, ça a été signé avec le gouvernement du Québec, là, mais c'est de par cette entente-là avec le gouvernement du Québec que ces nations-là ont pu dire au gouvernement fédéral, ben là, merci, mais non merci, on est en mesure de se gérer nous-mêmes désormais, c'est ce qu'on comprend.
Ben, c'est en grande partie, oui. Il y a encore certains programmes pour lesquels ils sont dévolus, mais ils ont leur propre gouvernement, ils ont leur propre système politique, puis ils siègent à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, à l'APN, mais ils sont en quelque part indépendants aussi. Là.
Vraiment intéressant. Et ça a l'air de rien, mais là, l'émission tire déjà à sa fin. J'ai deux dernières questions pour vous, M. Nolet. Au cours de la dernière année, la Société nationale est devenue propriétaire d'un lieu géographique des plus symboliques dans la région, symbolique pour la région, notamment Sherbrooke-Oise, soit le rocher Menasson, situé dans la rivière Saint-François, là, tout près de l'embouchure de la rivière Magog, là, au centre-ville, de ce qui est aujourd'hui désigné comme étant Sherbrooke. À l'automne dernier, on a eu le bonheur de vous rencontrer afin de solliciter votre participation à un projet mutuel symbolisant une nouvelle alliance, un nouveau départ entre le Québec et les nations autochtones, dans ce cas-là, évidemment, la nation Wabanaki. Un projet envers lequel vous avez manifesté une magnifique ouverture. Est-ce que vous accepteriez de nous expliquer, et expliquer donc aux auditeurs et aux auditrices, bien, pourquoi un tel projet visant le rocher Menasson peut être intéressant pour vous?
Ben, en fait, pour la nation, le rocher Menasson, c'est une symbolique historique. Dans le fond, il y a eu des rassemblements aux fourches. En fait, de la rivière Magog, Saint-François et Massawippi. D'ailleurs, c'est de façon-là qu'on désigne Sherbrooke. C'est aux grandes fourches, Nikitaotobwassuk. Aux grandes fourches. C'est Nikitaotobwassuk pour Sherbrooke, aux grandes fourches. Et Nikitaotobwassuk, ça c'est à Bishop ou à Lennoxville, c'est
aux
où on appelle
fourches.
Aux petites fourches, oui, aux petites c'est fourches, c'est ça. Donc on est dans les mêmes coins. Fait il y a eu des lieux de rassemblement importants. Là, il y a eu aussi lieux de bataille aussi là, symbolique lors de suivant l'attaque d'Odanak le 4 octobre 1759. C'est dans ces environs-là que nos guerriers ont rattrapé les Rangers de Robert Rogers qui étaient venus attaquer Odanak. Quelques jours plus tard, qu'ils ont rattrapé quand lui s'en retournait vers l'État de New York via la Saint-François, par le lac Memphremagog, la rivière Connecticut, pour retourner dans l'État de New York. Mais on a rattrapé une bonne partie de ces hommes à cet endroit. Et il y a eu des batailles qu'ils ont eu là. On a tué la plupart des Rangers de Rogers qui ont été rattrapés. D'autres ont réussi à se sauver. Mais c'est pour nous, c'est symbolique, cet endroit. Puis ça a eu lieu, donné lieu à des histoires, des légendes aussi, à cet endroit-là, qui ont été romancées là, à ce rocher-là.
Et si les auditeurs et les auditrices là, l'ont bien remarqué, je ne parle pas de l'îlot du pain solitaire, je reprends plutôt la désignation autochtone de cet endroit-là. Puis c'est pas pour rien, c'est que lorsque vous l'avez nommé plusieurs milliers d'années avant les Allochtones, ben devinez quoi, il y en avait pas de pain qui était poussé sur le rocher, alors que non. Si je me souviens bien, Menasson veut dire un peu rocher nu ou rocher seul, là.
En fait, c'est ça. Menasson, c'est une pierre, c'est un rocher. Menace, c'est seul. Ouais. Quand je l'expliquais à Menal au sol, c'est que je marche seul. Menasson, c'est que le rocher est seul. Fait que non, effectivement, c'est par la suite qu'un pain a poussé sur l'île, sur le rocher. Mais à l'origine, c'était un rocher solitaire.
Oui, puis donc, on va prendre... la Société nationale était fervente d'histoire. On va désigner le rocher de la façon dont il a été désigné au début de l'histoire. Là, la fin de l'histoire reste à écrire. Le temps file déjà, M. Nolette. Il nous reste seulement 2-3 minutes, mais on a le temps quand même avant la conclusion. Ça m'est difficile d'organiser une entrevue avec un représentant des communautés autochtones sans aborder la fameuse question du territoire non cédé. Qu'on entend beaucoup depuis quelques années, qui fait fréquemment l'objet de déclarations au début d'allocutions publiques diverses. Même le Canadien de Montréal s'y était mis à un certain moment donné. D'abord, comment cette déclaration-là est-elle reçue par les Wabanaki puis par les Autochtones de manière générale? Là, parce que, bon, on vous... Tu sais, c'est des Allochtones, là, c'est des Blancs là, qui font ces déclarations-là. Alors, vous, comment vous recevez ça? Puis, selon vous, est-ce qu'elle est porteuse véritable de changement ou encore, est-ce pas là une autre... juste une forme de, finalement, de paraître permettant aux non-Autochtones de se draper dans une certaine vertu sans conséquence, sans effet réel, mais avec la conviction d'avoir fait quelque chose?
Bien, quand on... C'est une chose de reconnaître que, par exemple, telle activité se tient dans sur le territoire non cédé, par exemple, la nation Wabanaki sur l'île d'Aquina. C'est une chose de le reconnaître, mais c'est parce que on dirait qu'avec le temps, à l'origine, il y avait ça faisait du sens, mais avec l'usage de l'utiliser ici et là, ça vient que ça perd un peu son sens. Pour nous, ça n'a pas de signification particulière. De fait, simplement le fait que nous, on affirme qu'on est chez nous, c'est nos territoires non cédés, mais tu sais qu'on comment dire ça? Donc, quand il arrive des événements spéciaux puis qu'on veut le souligner à chaque fois, je pense que ça perd un peu de son sens. Puis simplement que ça soit écrit à quelque part, ça soit reconnu, OK, on reconnaît que telle partie de territoire, c'est le territoire des Wabanaki, les Wabanakiak, ben c'est correct, mais de dire après ça, de l'utiliser, de le répéter à chaque fois qu'il y a une occasion spéciale ou un événement, je pense que ça perd encore une fois son sens, puis je sais pas, là.
L'effet contraire que celui de rechercher? Ouais. Parce que, justement, ça fait en sorte que c'est devenu comme commun, puis on l'entend plus vraiment.
On voit plus la signification du message, puis oui, puis on le voit des fois sur les messages, des posts sur Facebook, sur Internet. Bon, encore, tu sais, c'est sur le territoire, on sait dire. Tu sais, ça vient que ça réveille des vieilles hangs, puis ça perd, encore une fois, son sens, puis c'est toute la symbolique derrière ça. Fait que je pense que une fois ça dit, une fois ça reconnu, je pense qu'on peut passer à autre chose puis dire, ben regarde, avoir des discussions plus constructives que de dire simplement on se situe sur le territoire non concédé de la nation Wabanaki. Fait que c'est...
Autrement dit, M. Nolette, là, les paroles, vous en avez assez entendu maintenant. Ouais. Passons à l'action. Comme au par exemple le réaménagement de l'îlot Ménasson.
Exact. Faisons des gestes concrets, des gestes qui sont porteurs, qui vont ajouter à la valeur, à la richesse de nos peuples. Puis regardons en avant. Arrêtons de regarder en arrière. Puis regardons en avant, puis avançons.
Vous avez un talent naturel à la radio, M. Nolette, parce que vous venez de faire une conclusion qui s'impose. Franchement, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, M. Nolette, directeur général de la Nation Wabanaki d'Odanak. Pourquoi? Pour souligner dûment, comme il se doit, la Journée nationale des peuples autochtones. Je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à vous informer davantage sur cette journée, à être sensibilisés par rapport à la réalité que vivent les nations autochtones, et vous réaliserez que on se ressemble bien plus qu'on peut penser. Il y a beaucoup plus de ponts qui nous unissent que le contraire. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, M. Nolette.
Ça m'a fait plaisir, merci à vous encore une fois et je souhaite une bonne journée à vous et à tous vos auditeurs.
Ben, je vous remercie beaucoup. Puis en conclusion, simplement, je vous souhaite une magnifique journée nationale des peuples autochtones qui se tient le 21 juin. À vous, M. Nolette, aux membres de votre nation, comme à l'ensemble des membres de la nation québécoise qui se doivent de s'intéresser à cette importante journée. Puis, ben, comme on n'aura pas le temps de se voir d'ici là, je vous souhaite aussi une belle fête de la nation québécoise qui a lieu quelques jours plus tard, le 24 juin. Pour notre part, nous serons de retour le mercredi 1er juillet pour une émission qui portera sur la créativité et l'innovation. D'ici là, portez-vous bien et au grand plaisir de vous retrouver.
Il est midi
59 minutes.
Grande nouveauté sur les ondes de CFLX. Du dimanche au jeudi, de minuit à 6h, syntonisez le 95.5 pour le monde du rock la nuit. Du classique rock au pop, en passant